C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Allons maintenant retrouver Danny Dubé dans l'air de Nashville. Bonsoir, Danny.
Salut, comment ça va, Mario?
Ben, ça va bien toi-même, mon cher. L'actualité nous amène à parler d'autre chose dans un premier temps que du Canadien Nashville demain, là. Fait que t'as entendu la nouvelle. Lindy Ruff qui perd son poste. T'es-tu surpris si tard dans le calendrier, si tard dans la saison?
Écoute, c'est drôle ce que je vais te dire. Il y a des organisations qui ont une culture comme ça. Là, c'est des nouveaux dirigeants, mais c'est pas la première fois que les Devils du New Jersey congédient leurs entraîneurs très tard dans la saison. Puis c'est même arrivé à Claude Julien.
Oui, c'est vrai.
Fait que c'est une organisation qui a fait ça plusieurs fois. Là, maintenant, c'est sûr que c'est plus M. Lamoriello, c'est d'autres membres. Mais je sais pas, tu sais, est-ce qu'il y a un parallèle? Probablement pas, mais une chose est sûre, Mario, c'est que il y a tellement. La pression est tellement forte, les attentes sont tellement élevées. Le cash est dans les séries. Rappelons-nous de ça. Les Devils, ils ne roulent pas sur l'or, là. Ils prennent un nouveau propriétaire, tout le monde veut faire de l'argent. C'est important de rentrer en série. Et moi, je pense que malheureusement, les attentes étaient extrêmement élevées. Puis Lindy Ruff paye pour plusieurs affaires.
Et tu penses à quoi quand tu dis ça, Danny?
Bien, je pense entre autres à la blessure de Vanecek. Tu sais, il n'y avait pas de plan B. Cette organisation-là, au début de l'année, était partie en se disant que le jeune Schmid allait être leur gardien d'avenir. Ça a cassé. Ils ont été obligés de le retourner dans la Ligue américaine. Vanecek s'est blessé. Nico Daz a pris le filet. Il n'a pas été capable de jouer pour plus que 500. C'est une équipe qui a des problèmes à la défense parce qu'ils ont beaucoup de joueurs offensifs puis il manque des vétérans quand même. Doug Hamilton est blessé depuis le début de l'année. Fait qu'il y a plusieurs choses qui font que ça ne marche pas. Puis, tu sais, moi, je souhaite la meilleure des chances à Travis Green, mais ça va être très difficile de tourner ça de bord, comme l'expression le dit, là, à cause de tous ces éléments-là. Puis l'élément stabilisateur pour moi, Mario, ça demande toujours le filet. Puis encore plus quand tu as une équipe jeune. Tu sais, parce que, on va se dire les vraies affaires, là, tu sais, je regarde jouer Jack Hughes, c'est un joueur exceptionnel avec la rondelle. Tu sais, mais quand il n'y a pas rondelle, c'est un peu une aventure. Puis si en plus la défensive n'est pas hermétique, si en plus ton gardien n'est pas à la hauteur, ben ça fait que ton gardien il joue souvent puis il est en bas de 900. Puis quand ton gardien est en bas de 900, puis c'est ton gardien numéro 1, tu sais vers quoi tu t'en vas vers les problèmes.
Les Devils du New Jersey ont eu l'occasion de repêcher non pas une, mais à deux reprises au tout premier rang, 2017 avec Nico Hischier. Et ensuite de ça, ils ont eu le même privilège, avec celui que tu viens de nommer en 2019. Donc deux fois en trois ans, on est en 2024. Ils sont revenus en série l'an passé, les Devils. Ils se sont inclinés en deuxième ronde. Tu penses-tu que c'est quand même une reconstruction qui va aboutir? Tu penses-tu que c'est une équipe qui va devenir une puissance dans la Ligue?
Oui, absolument. Il y a des têtes qui tombent, là. Il y a des têtes qui roulent, comme le dit l'expression. Il y en a qui payent en cours de route pour ça, là. Tu sais, pour arriver à échéance, il y en a qui paient le prix, là.
Clairement.
J'aime beaucoup l'expression de Martin Saint-Louis. Il y en a qui plantent les arbres, puis il y en a d'autres qui profitent de la forêt, là.
C'est sûr.
Écoute, c'est clair que l'équipe, de la façon dont elle est bâtie, ça me fait penser aux Oilers. Un petit peu.
Okay.
T'as des joueurs de talent en attaque. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont Nico Hischier. Puis Hischier, c'est un modèle. Offensif, défensif. 200 pieds, 100 pieds. Il joue la game, comme le dit l'expression. Il joue très bien dans toutes les facettes de jeu. Ils ont repêché Mercer. Ils ont fait quand même du bon travail. Ils ont une bonne équipe. Mais à la défense et devant le filet, honnêtement, ils sont pas chanceux, là, je dis ça comme ça, Mario. Ils ont quand même été malchanceux avec, par exemple, les contre-performances de Schmidt. Parce que Schmidt, là, l'an passé, c'était le sauveur en série, là.
Oui.
Lui, il est rentré en série, il s'est mis à jouer, puis il jouait, là. Moi, je me souviens d'avoir couvert les séries, puis dire, lui, là, c'est la découverte. Waouh, ils ont un gardien d'avenir, etc. Je suis dans leurs souliers, je pense la même chose. On a notre gars. Il arrive l'année suivante, et écoute, il est perdu son code postal, il est capable d'arrêter la rondelle. Là, tu reviens à Vanessek, et là, tu es obligé d'introduire dans l'espèce de rotation, parce que ça demande une rotation. Là, tu entres dans la rotation, et Nico Daz, puis c'est encore un jeune gardien, puis bon, là aussi, t'as une part de problème.
Trois gars en bonne 900 d'efficacité, Danny, des trois gardiens des Devils.
Ben oui, c'est ça. C'est pas juste le gardien, là.
La défensive, la manière dont on les protège, nécessairement, on l'a vu. T'sais, on voit une équipe qui est dans une phase de reconstruction avec le Canadien de Montréal. Fait que quand les gardiens ne gaulent pas sa tête, pour utiliser l'expression consacrée, ça complique les affaires, Danny, hein?
C'est clair. Puis, c'est très difficile de faire une évaluation de gardien de but quand ton équipe ne joue pas bien.
Et très difficile de faire une évaluation de ton équipe quand ton gardien ne joue pas bien.
En même temps, exactement. Donc là, il y a comme l'œuf ou la poule, puis là, tu regardes ça, puis c'est pour ça que qu'il y en a qui sont payés des gros salaires. C'est pour faire les distinctions entre tout ça. C'est pas nécessairement évident. Mais moi, je continue de croire qu'il y a plusieurs joueurs chez les Devils actuellement qui jouent pas du très, très bon hockey à 5 contre 5. Alors là, bon, on change d'entraîneur, on amène une nouvelle voix. Est-ce que ça va avoir un effet? Écoute, on leur souhaite, là, mais je trouve ça triste qu'un vétéran, 64 ans, qui avait peut-être une chance de gagner la Coupe Stanley éventuellement, soit sacrifié. Mais en même temps, ben, tu sais, c'est un grand garçon. Ouais, écoute.
C'est la nature de la business. Ruff, ouais.
Oui, Lindy Ruff a dit, je suis responsable de ça. C'est moi le patron, c'est moi le boss, c'est moi le coach. Puis, je prends la pleine responsabilité de tout ça. On veut gagner tous. Fait que moi, je souhaite bonne chance, puis je veux que ça marche, puis toutes les bonnes affaires. Ça, il a dit les bonnes choses.
Ouais. Et ça dénote aussi là, la quantité d'entraîneurs qui perdent leur emploi, le fait que coincé sous le plafond salarial qui a peu bougé depuis quelques saisons, c'est une des choses les plus faciles à faire, même si c'est pas si facile. Je dis pas qu'ils font ça là en claquant des doigts, puis ils doivent rebrasser ça bien des fois avant de... Mais il reste qu'à considérer tout ce qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent pas faire. Ben, ce qui reste à faire, c'est souvent de changer d'entraîneur, Danny.
Rappelons-nous qu'on est toujours dans une business de résultats et que les entraîneurs doivent être en mode solution. Puis c'est humain, là. Après un certain temps, tu as fait le tour du jardin, tu as regardé les affaires avec tes propres lunettes, tu arrives à échéance. Puis on est là souvent, on dit les grands entraîneurs, les bons entraîneurs. Mais écoute, les bons entraîneurs, ils ont des bons joueurs. Ils ont des bonnes équipes. Puis tu as des joueurs, tu as des entraîneurs qui vont réussir à faire des tours de magie, mais c'est toujours à court terme. Lindy Ruff l'an passé, c'était génie. Là.
Ben oui, tu sais, arrive en série.
Quel travail, avec une jeune équipe, tu sais, cette année est plus bon. Ça n'a rien à voir avec Lindy Ruff, ça a tout à voir avec les attentes et les résultats. La relation de confiance que le directeur général va avoir avec son entraîneur en raison des discussions. Puis tu sais, Mario, là, c'est vraiment ça. Là, la discussion, c'est as-tu une solution? Quand l'entraîneur commence à répéter toujours les mêmes affaires, puis à parler toujours des mêmes joueurs qui tombent ses nerfs, ça veut dire qu'il n'y en a plus de solution. Puis le directeur général, il peut pas échanger ces joueurs-là. Ça fait qu'il fait quoi?
Ben, il fait ce qui est arrivé avec Lindy Ruff. Et ben, ça me fait penser, Danny, tu sais, c'est pas évident là, d'être celui qui procède aux semences, au labour, aux semences, non. D'être là quand la forêt est en pleine explosion, pour ne pas dire en pleine éclosion. J'espère que les derniers matchs du Canadien sont de nature à donner du gaz à Martin Saint-Louis. Puis je dis pas qu'il est loin d'être au bord du précipice. Je parle plus en termes des prochaines saisons. Là. T'sais, j'espère qu'il va être là puis qu'il va réussir à rester bien collé au projet, de garder son discours toujours, ma foi, ou d'entretenir une bonne relation avec ses jeunes joueurs, puis être là quand viendra le temps de passer à la récolte.
Oui. Ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas parce que les attentes sont très basses à Montréal pour l'instant. Dès l'an prochain, ça va changer. Mais tu sais quoi? J'écoute l'entraîneur parler. J'ai la chance de le voir, donc de le côtoyer, de voir son langage corporel, comment il se comporte. Et très honnêtement, c'est un gars qui est animé par une confiance qui est importante. Et dans le contexte, ça en prend. Et il y a le soutien des dirigeants, ça c'est bien évident, on le ressent.
Il y en a des solutions, lui. C'est ça que tu me dis d'une autre façon, oui. Danny.
Mais oui,
on verra, puis je ne le vois pas tomber à court terme, en tout cas.
Non, puis écoute, je fais juste le rappeler aux gens, puis je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais un paquet de blessés, là, puis tu n'entends jamais l'entraîneur se plaindre, là, il travaille, puis il trouve des solutions, puis fait jouer son monde différemment, il joue avec ses trios, il coach différemment aussi. Depuis un certain temps, il va ménager la quatrième trio, s'assure d'essayer de prendre l'avance dans le match. Il est très agressif, façon de parler, bien sûr, au sens figuré, dans sa façon de diriger son équipe. Et il y a du mordant dans son travail. Donc, écoute, peut-être un jour, ça va arriver qu'il va en avoir des inquiétudes, mais là, pour ça, il y en a pas. Moi, j'en ai pas. Puis je trouve que l'équipe se comporte comme une équipe qui a du caractère. Après, les résultats, c'est une autre chose.
Ouais, et résultats, ben, on verra ce que ça va donner demain contre les Prédateurs de Nashville, qui est un petit peu sorti de nulle part, là, sont en train d'être ou de devenir l'équipe de l'heure. Je sais pas si ça va leur permettre de consolider une place en série, mais un autre beau défi après Floride et Tampa pour le Canadien demain contre les Prédateurs, Danny.
Ah, c'est une grosse pointure. Écoute, les quatre équipes de ce voyage, là, ici en Caroline, puis après ça... Ici et après ça en Caroline, pardon. C'est sûr que c'est des grosses pointures pour le Canadien, mais en même temps, c'est des défis. Je trouve que c'est une équipe qui répond bien dans ce genre de confrontation-là. Fait que moi, je suis extrêmement intéressé. Je vais absolument te laisser en disant que Jay Gensel va probablement être échangé des Penguins de Pittsburgh à une autre formation. J'en reviens encore pas que Erik Karlsson,
incroyable,
cette position-là va chasser ce joueur-là de Pittsburgh, mais écoute bien ça. En faisant une petite recherche aujourd'hui, Mario, je me suis rendu compte que Gensel, actuellement, gagne 6 millions par année et qu'au niveau des meilleurs marqueurs des trois dernières saisons, il est le 25e. Et tu sais qui est le 26e? Elias Pettersson, qui vient de signer pour 11,6 millions. Alors, je sais pas trop comment ça va se finir, cette histoire-là, comment ça va se terminer, je devrais dire, en meilleur français, mais une chose est sûre, c'est que...
C'est pas un gars de moi, location. Si
je suis
c'est pas un gars de location,
ben non,
Gensel.
Ben non. Puis moi, si je suis l'agent de ce bonhomme-là, écoute, je me tape dans les mains en disant, je souhaite bonne chance à Elias Pettersson, et au passage, je le remercie, parce que là, à partir de maintenant, mon client, il a pratiquement doublé son salaire. Parce que lui, écoute, il est à 6 millions, là, en bas de 10 millions, il n'y a pas personne qui va parler avec.
Ben, tout à fait, tu as tellement raison. On en reparlera davantage et pour les gens qui aimeraient t'entendre davantage développer sur ce sujet-là précisément, on vous invite à écouter le balado Bon Match de Martin et Danny qui est disponible depuis ce matin en ligne. Danny, une bonne soirée. On se retrouve demain après la rencontre avec grand plaisir.
Comme on dit chez nous, yes sir.
Yes sir. Merci Danny.
Salut Mario.
Bye bye.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est donc à Nashville que le Canadien a repris le boulot aujourd'hui avec une séance d'entraînement. Le Canadien qui affronte les Prédateurs demain soir, là, l'équipe de l'heure en ce moment dans la Ligue nationale. Bien le bonsoir, Martin.
Salut Mario.
Alors, est-ce que Martin va pouvoir compter sur le retour au jeu d'un blessé bientôt? On devrait avoir la même formation qui est allée en Floride demain?
J'ai pas l'impression qu'on va avoir la même formation, Mario. Les nouvelles ont l'air pas mal bonnes dans le cas de Jaden Struble. Struble patinait avec entrain aujourd'hui. Il avait intégré le groupe. Entraîné, pas entraîné. Là, c'est un peu l'histoire de son voyage, mais les choses avaient l'air à très bien fonctionner pour lui aujourd'hui. Il y en a un qui s'approche véritablement d'un retour au jeu, peut-être demain. C'est Raphaël Harvey-Pinard. Harvey-Pinard a été inclus dans tous les exercices aujourd'hui, incluant le contact physique. Je peux même vous dire que il a l'air prêt parce que sur un exercice à 2 contre 2 où on travaillait sur la patinoire au complet, là, sur la longueur, sur les 200 pieds, il a fait quelques jeux assez spectaculaires au filet, sans presque oublier ses freins. Il a l'air prêt, Raphaël Harvey-Pinard. Alors, ça donnera quand même quelques munitions à l'entraîneur du Canadien s'il veut énergiser son alignement un peu, Mario. Pas que le Canadien a été mauvais ces derniers matchs, mais parfois, d'envoyer des gars qui sont prêts à jouer, là, ça peut donner un petit peu de, un petit boost en mauvais français.
Par ailleurs, est-ce que le coach a cru bon intervenir sur les longues passes transversales en avantage numérique qui coûtent des avances à son équipe dans les deux derniers matchs avec Jura il y a deux matchs et avec le capitaine lors de la dernière rencontre?
Ouais, c'est vraiment un peu dommage, c'est sûr. Mais je me suis attardé, moi, au propos de Caden Goulet après le dernier match de samedi. Goulet a dit quelque chose comme, ils ont dirait qu'on devient un petit peu nerveux quand on prend l'avance. Je fais le tour du vestiaire avec la question, puis je vais te faire entendre la réponse de Martin Saint-Louis, elle est intéressante.
Mon feeling sur le banc, puis tout, je me sens pas nerveux partout. On fait des erreurs de jeune équipe, c'est normal, tu sais, puis... Si tu regardes les deux matchs, c'est des scénarios similaires. Mm-hmm. Tu sais, on est à l'avantage numérique, puis on fait un revirement en entrée de zone. Puis, tu sais, ces affaires-là, c'est tellement plus facile à corriger qu'à bâtir ton power play, que c'est qu'il y a l'air. Tu sais, effectivement, l'apprentissage douloureux. Mais tu sais, si tu m'aurais dit au début de l'année que tu vas donner 14 buts en désavantage, en avantage numérique, je veux dire. C'est un désavantage pour l'adversaire, mais que ton power play va avoir l'air de ça, par exemple. Je l'aurais payé cher.
Alors lui, Mario, écoute, c'est encore la théorie du verre à moitié plein, dans le sens que lui, il aime mieux voir son jeu de puissance progresser, il aime mieux regarder ça de ce côté-là, plutôt que voir les moments où le Canadien a donné des buts assez déterminants. Mais écoute, je peux te dire qu'en regardant les matchs d'en haut, là, quand le Canadien prend les devants, ils sont un peu nerveux quand on voit l'adversaire mettre un peu de pression. J'ai hâte de voir demain, parce que tu l'as dit dans ton préambule, le Canadien joue une équipe haute. Alors, une équipe qui est confiante, ça va être intéressant de voir si le Canadien, après une bonne première période, sont capables de limiter les erreurs, puis d'être capables au moins d'emballer celle de demain. Ça va être intéressant de voir comment ils vont se comporter. Mario, la date limite des échanges, c'est sûr que ça fait parler dans toutes les équipes. Ça fait parler chez le Canadien. Le Canadien, on le sait, est vendeur. C'est pas une position ben le fun, non, habituellement, pour l'entraîneur. L'entraîneur, ça veut dire qu'il va perdre des joueurs. Il va peut-être perdre des joueurs qu'il ne veut pas perdre. Et dans le cas de David Savard, plus précisément, visiblement, quand on parle de ça à Martin Saint-Louis, il veut pas le perdre, David Savard, pour tout ce qu'il amène sur et hors glace. Mais Martin va nous parler de sa position comme coach avec l'équipe qui est vendeur actuellement.
T'sais, tu peux mesurer qu'est-ce qu'il fait sur la glace, comment qu'il calme le groupe, comment qu'il bloque des shots. Il est très bon en possession de rondelles. Il continue notre attaque. Il y a beaucoup de valeur, puis c'est mesurable, ça. Mais c'est des choses que tu peux pas mesurer hors glace, que ça a encore autant de valeur.
Quand tu es dans les équipes qui vendent, comme entraîneur, est-ce que faut se préparer peut-être à... dans l'éventualité où tu peux perdre un joueur que tu aimes, comme David, par exemple?
Parce que ça fait partie de la business. Tu sais, puis c'est un côté plate de la game, tu sais, parce qu'on est tous humains. Puis moi, comme je l'ai dit avant, j'ai toujours adoré mes coéquipiers, puis comme entraîneur, j'adore mes joueurs. Fait que c'est le côté humain, il fait ça difficile quand tu perds des gars.
Mario, le Canadien a de la marge de manœuvre sur sa masse salariale, 5 millions. Mm-hmm. Est-ce que ce sera assez pour compléter une transaction? Tu sais, dans le cas de Jake Allen, est-ce que le Canadien pourrait ultimement, si le deal est bon, comme on dit en bon québécois, prendre une petite portion du salaire pour l'an prochain? Ça reste à voir, parce que Montembeault et Primo sont signés. c'est pas des gardiens qui vont coûter excessivement cher aux Canadiens pour les prochaines saisons. Tu sais, l'idéal, ce serait qu'on puisse faire la transaction avec le gardien puis de pas pouvoir retenir aucun sou du salaire. Ça, c'est l'idéal. Mm-hmm. Mais on verra bien. Tu sais, des fois, il y a des compensations intéressantes qui viennent avec l'idée de conserver une partie du salaire. David Savard est encore assez catégorique. Lui, son premier choix, c'est de rester à Montréal. Matheson a glissé la même chose, même si on n'entend pas vraiment son nom dans les rumeurs. Joel Armia a passé un coup de vent à côté de nous, il n'est pas arrêté. Alors, je peux pas vous le dire. mais il y a deux vétérans, Tanner Pearson et Jake Allen. Tu sais, Mario, ces gars-là ont déjà gagné la coupe. David a déjà gagné la coupe. Alors, j'ai demandé à Pearson et à Allen, j'ai dit, l'idée d'en gagner une autre, d'avoir la chance à court terme de joindre une équipe qui peut aspirer à un championnat. J'ai gardé la réponse de Jake Allen. On va l'écouter.
Is that a part of you?
Oh, I always think about it. I don't mean, I just had that taste of being part of a team. You know, obviously, I felt I was very fortunate because that's the way I look at it. I think a lot of guys go with their career and they don't even get an opportunity to do it. And it's not their fault. It's not that they're great players. It's just situational based. And for me, I've already been a part of it once, but, you know, I'd love to be a part of it again, but I also would love to see this team win a cup in the future.
Écoute, c'est intéressant. C'est quand même dans leur esprit, Mario, quand on écoute les propos de Allen et ceux de Pearson. Je peux vous les résumer là. Tu sais, quand tu goûtes à ça, puis que quelqu'un t'en offre une possibilité pour une autre fois vers la fin de ta carrière, ça ébranle un peu. C'est peut-être deux gars aussi qui sont préparés plus mentalement à recevoir un coup de fil de Kent Hughes puis se faire dire, ben, ok, tu t'en vas prendre l'avion, tu t'en vas dans telle ville. Mario, écoute, évidemment, David Savard a été bombardé de toutes sortes de questions. Je vais vous le faire entendre. Il est assez conséquent avec lui-même par rapport à tout ça.
D'accord.
J'ai dit dans le passé, je pense qu'il y a des gars qui m'ont aidé beaucoup au début de ma carrière. Puis ça monte aussi de les faire sentir à l'aise, de donner tout ce que je peux comme connaissance à travers les années, toutes les erreurs que moi j'ai faites. S'ils sont pas obligés de les faire aussi souvent que moi, je pense que ça va les aider. Mais je pense que c'est quelque chose qui est le fun. On a une bonne relation avec les jeunes de l'équipe, mais je pense que tous les gars ensemble, que ce soit les défenseurs, les avants et tout, je pense qu'on a un beau team spirit, puis on s'en va dans une direction qui est le fun.
Alors, tu sais, Mario, je pense que Kent Hughes a parlé à son monde, comme il l'a fait peut-être avec Sean Monahan dans le passé, il y a de ça quelques semaines. David ne parle pas comme un gars qui va partir, mais on sait jamais. On sait jamais, Mario, si le Canadien reçoit une offre très tentante. On sait jamais comment ça pourrait tourner là. Il y avait des clubs qui cherchaient ce genre de défenseur.
Mais on tomberait pas en bas de notre chaise que David restent des Canadiens jusqu'à la fin de la saison. Encore
moins.
Dans le cas de David surtout, là, on verra dans le cas de Jake, mais même là, dans les deux cas, l'année de contrat supplémentaire qu'ils ont, ben, complique ce que les demandeurs ou les acheteurs cherchent d'habitude.
Oui. Oui, puis il y a des clubs qui ont des petits problèmes de masse salariale. Mais, comme je disais tout à l'heure, Mario, 5 millions de marge pour le Canadien, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire avec ça.
Ils peuvent accommoder quelqu'un.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, s'il y a un troisième danseur dans cette transaction-là aussi, c'est quand même pas exclu. Parce que dans à peu près tous les échanges qu'il y a eu jusqu'à maintenant, ce sont des échanges qui sont faits à trois clubs. Je vais te parler un petit peu de Nashville, les Prédateurs. L'horaire a fait que l'entraînement du Canadien est devancé, puis celui des Prédateurs, avec le déplacement que ça impliquait, j'ai pas pu voir les deux clubs, mais je peux te dire une chose, qu'avec la séquence de victoire des Prédateurs, on ne parle plus beaucoup d'échanger Yossi Saros, leur gardien de but numéro un. Je pense que ce projet-là a été enterré parce que l'équipe s'en va vers une place en série. Ils ont même distancé leurs plus proches opposants. C'est peut-être pas la même chose pour le défenseur québécois Alex Carrier. Le nom de Carrier se promène, Mario. Il est en fin de contrat, agent libre sans restriction à la fin de l'année. Et on dit à Nashville que on disposerait dans l'organisation là, d'un défenseur qui joue à Milwaukee, dans le club école, qui pourrait offrir un bon palliatif si on reçoit une offre pour Alexandre Carrier. Alors, ça va être un dossier à suivre.
Bien, à surveiller, Martin. Un gros merci d'avoir été là. On te retrouve demain avec Dana, compté 18h30 pour l'avant-match et ce sera un plaisir de vous retrouver après la rencontre à Bonsoir les sportifs. Fait que bon lundi soir à Nashville, Martin.
Merci, Mario. Bonne émission.
Merci beaucoup.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Salut Mario, comment vas-tu?
Ça va très très bien, merci. Toi, passe une belle fin de semaine?
Très belle fin de semaine, très très belle.
Congédiement de Lindy Ruff, que tu as croisé brièvement dans ta carrière, que tu n'as pas apprécié, en tout cas pendant un certain moment, là, tu nous avais déjà raconté avoir eu envie de sauter dessus.
Mais ça, c'est. Alors, je l'ai eu quand même assez longtemps, Lindy. Je l'ai eu pendant 4 ans. Puis, pour être honnête, c'est vrai, je t'avais raconté qu'à un moment donné, il m'avait retiré de l'alignement et je m'y attendais vraiment pas. C'était lors de ma première saison dans la Ligue nationale. Puis, la tension était montée. Mais non, je l'ai adoré. Je trouvais que c'était une excellente personne. Je trouvais qu'il avait toujours les bons mots. Puis, il m'employait toujours d'une certaine manière pour me faire bien paraître. Puis, il me protégeait aussi souvent. Donc, non, je l'ai vraiment adoré. Et, j'ai trouvé que c'était un chic type, ce monsieur-là. Puis il connaissait son hockey, la preuve. Il est encore là, puis ça fait quasiment 3 décennies qu'il coach.
Peux-tu deviner ce qui, dans son discours, est devenu peut-être un peu assommant pour les joueurs qu'il dirigeait au New Jersey au point que ça lui coûte sa job?
Ben, je pense que c'est plus la perte d'Andrew Brunette qui a affecté un petit peu son règne là-bas, parce que Andrew Brunette est arrivé, puis on se souvient l'année passée, on avait entendu des Fire Lindy, congédions Lindy pour faire la traduction, oui. Mais à ce moment-là, Andrew Brunette faisait partie de la gang qui avait repris cette équipe-là, puis Andrew Brunette, c'est quelqu'un qui est plus de type X et rond, et puis ça fait en sorte que il implantait un système de jeu qui était beaucoup plus carré et qui aidait Lindy Ruff à bien paraître aussi, mais dans le fond, il se compléterait très bien. Donc, je pense que cette perte-là, parce que maintenant, Andrew Brunette, c'est le coach de Nashville, puis on voit comment Nashville a été capable de se repositionner, eux autres aussi, parce qu'ils sont bien coachés. Puis Andrew Brunette, comme je le disais, c'était un assistant coach l'année passée sous Lindy Ruff. Maintenant, il est coach en chef avec Nashville. Donc, pour moi, il y avait vraiment un gros impact et ça a bénéficié à Lindy. Est-ce que avec Travis Green, il avait le même soutien? Je pense pas.
C'est intéressant le parallèle que tu établis d'amener Andrew Brunette dans la conversation, parce que c'est un gars donc clairement qui a démontré qu'il avait du potentiel d'être un bon coach, parce que lui en Floride, il y a une saison de 51-18 en 2021-22, c'est une histoire d'alcool au volant, si ma mémoire est bonne, Antoine, qui lui a coûté sa job ou...
Ben c'est je pense que c'est quelque chose du genre. Ben c'est sûr qu'on avait changé de coach aussi. Puis je pense on recommençait un petit peu à zéro. Mais effectivement, sa présence avec les Panthers de la Floride avait commencé à faire la vague de changement que Paul Maurice aussi profite. Et Paul Maurice a un gros impact, puis c'est un coach qui connaît très bien aussi son hockey et qui est pour moi un homme très éloquent et qui sait exactement comment parler à ses joueurs. Donc, je suis pas surpris qu'il ait du succès avec l'équipe qu'il a, puis qu'il ait bâti une identité aussi en Floride de cette manière-là. Mais ça a commencé sous Andrew Brunette, selon moi, et ça a eu un bon impact. Donc, c'est l'effet domino un petit peu. Puis ça paraît aussi quand tu es bien entouré, tu as des bons coachs qui sont pas nécessairement pareils que toi, tu cherches un petit peu des assistants coachs qui sont différents, qui peuvent te contredire.
Qui complètent ton discours ou qui font le buffer, exact. Ou qui font le tampon entre la chambre j'enchaîne avec Brunette, alors que la base de la discussion, c'est le congédiement de Lindy Ruff, mais le Canadien affronte les Prédateurs de Nashville, dirigé par Andrew Brunette demain, et lui, eux autres sont en quête d'une 9e de suite. Mais avant ces 9 victoires consécutives-là, on peut pas dire que c'était une saison historique là pour les Prédateurs. On parlait de la possibilité d'échanger Saros. Puis là, eux autres, ils ont comme cancellé, pas comme, ils ont cancellé un voyage qu'ils devaient faire à Vegas, une affaire d'équipe que les boys se sont dit non, on va pas là, on le mérite pas, le concert de U2 dans la sphère à Vegas. Et ça aurait pu vraiment virer en je dirais pas au cauchemar, mais ça aurait pu ne rien améliorer de prendre cette décision-là. Mais il semble que le groupe, puis d'ailleurs le groupe dont Roman Yossi semble-t-il, ont appuyé la décision et ça a flippé, ça a complètement changé l'allure de leur saison, Antoine.
Ben c'est clair. Et puis moi, je respecte tellement ça, ce genre de décision-là, parce que des fois, dans des équipes, dans le vestiaire, ça peut être facile. Les gens sont confortables et tout va bien, mais tu continues, tu perds des certains matchs. Mais un coach met son pied à terre, puis t'as l'appui du directeur général, du président, du propriétaire quand tu prends des décisions ainsi. Puis pour moi, ça a été la bonne décision à prendre, de mettre son pied à terre, de dire les gars, c'est pas correct, vous performez pas. Puis si je ne m'abuse, j'avais lu justement plusieurs articles à ce sujet-là, puis il disait que la qualité des entraînements aussi était vraiment médiocre. Et c'est pour ça que le jeu était pas bon sur la glace, puis les pratiques étaient mauvaises. Donc, ils ont tout cancellé, puis ça fait en sorte qu'il y a une bonne remise en question. Et moi, j'aime ça, hein, des coachs qui mettent les barres sur les T, les points sur les I, puis ça remet tout le monde à la bonne place et dans le vestiaire. Et jouer dans la Ligue nationale, c'est un privilège. C'est pas un country club, faut que tu performes. Et ben quand on remet ça en ligne, en première ligne, ben ça fait une différence. Et la preuve, ils sont sur une grosse séquence de victoires.
Je sais pas s'ils pourraient faire du dommage en série ou c'est juste de faire les séries dans leur corps, parce que c'est un club qui a pas vraiment de grosses vedettes. Sinon, Roman Yossi, qui demeure un joueur étoile, mais dans l'ombre de toutes les vedettes de la Ligue, tu seras d'accord sans doute avec moi, Antoine. Et leur premier marqueur devant Yossi, c'est Philip Forsberg, de la même année de repêchage qu'un certain Gad Chenyak, tu te rappelles. Lui, il est encore avec la même équipe. Puis c'est jamais devenu une star, mais il domine son groupe. C'est très homogène, Nashville. C'est une formule d'équipe.
Ben pour moi, Philip Forsberg, c'est quand même une star. Je trouve que quand je le regarde jouer, j'adore voir son amplitude, j'adore voir la manière dont il manie la rondelle, son coup de patin. Il crée énormément. C'est sûr qu'en ce moment, il n'a pas l'équipe, il n'est pas excessivement bien entouré, mais Philip Forsberg a déjà eu des grosses saisons et il a un impact indéniable sur l'offensive de cette équipe-là. Donc, c'est difficile de penser qu'il fait pas partie de ces stars-là d'une équipe, mais c'est clair que c'est une des pierres angulaires, c'est lui qui mène l'attaque, puis l'arrivée cette saison de Ryan O'Reilly, ben, ça l'a aidé, des Luke Shen, ils ont quand même une belle équipe, et les ajouts qu'on a fait font en sorte que ça nous donne un peu de temps pour développer des jeunes, et comme des Novak qui a 26 ans. On parle peut-être de l'échanger s'il n'y a pas d'extension. Des Cody Glass, est-ce qu'il va finalement éclore? Ils ont vraiment une belle petite équipe. Evangelista aussi, notamment, qui fait partie des bons petits jeunes là-bas. Donc, il y a une belle équipe. Ils essaient de développer leurs jeunes joueurs, un petit peu comme le Canadien, mais pour moi, ils ont plus de profondeur au niveau des vétérans. Ils ont de meilleurs vétérans.
Le Canadien qui a livré ses deux derniers matchs en Floride contre les Panthers et le Lightning, 2 points en prolongation. C'est drôle parce que ce sont deux erreurs semblables commises par deux joueurs différents, Juraj Slafkovský et Nick Suzuki, pendant un avantage numérique avec une longue passe. C'est quasiment un copier-coller les deux jeux, une longue passe transversale interceptée par l'adversaire à la ligne bleue en avantage numérique. Bon, Martin Saint-Louis, j'aime son analyse. J'ai toujours le don d'amener une twist à chaque situation en disant, ben, hey, quand il va rien que nous rester ça à corriger. Autrement dit, j'aime notre power play, j'aime notre jeu de puissance. Bon, ça, c'est une petite baveur, mais es-tu d'accord avec lui de dire que c'est l'affaire qui se corrige le plus facilement, alors que c'est vrai que le jeu de puissance démontre des beaux flashs d'échanges de rondelles et d'opportunités de marquer?
Ben, c'est clair, puis ça part de la qualité d'exécution et de rapidité. On a vu plusieurs équipes essayer de mettre de la pression, je trouve, sur le Canadien pour que des mauvaises passes apparaissent ou que les joueurs du Canadien se débarrassent de la rondelle. Puis j'ai trouvé souvent qu'on le faisait sur Slafkovský, mais Slafkovský me surprend maintenant, il me surprend plus finalement, mais je trouve qu'il réagit tellement bien, puis ses qualités de lecture de jeu réapparaissent vraiment bien parce que quand il voit cette situation-là, il se débarrasse pas de la rondelle, mais il exécute des passes rapides et les Canadiens est prêt à faire ce genre de jeu-là. Et souvent, il crée des chances de marquer. Et pour moi, j'ai adoré ce que je vois de l'avantage numérique. Si bien que c'est ce que j'adore de plus en plus regarder le Canadien jouer en avantage numérique. Surtout quand ils donnent pas de but, mais en général, dans les derniers matchs, ils ont été très bons.
Es-tu capable de dire à quoi va ressembler le plafond de Slafkovský? Je réfléchissais à voix haute la semaine dernière parce que j'avais encore aimé sa performance malgré la passe qui s'était faite couper. Puis je me dis.
C'est ça que je disais pour quand ils donnaient pas de but.
Ben non, mais ça va être, c'est tout un joueur de hockey, tu sais, c'est pas juste un grand gros bonhomme là que tu sais pour les gens qui pensaient que c'était pas un gars d'habileté, c'est un gars d'habileté, c'est un gars qui veut la rondelle, il y a un aspect fabricant de jeu, il y a un tir qui est en train de développer et je sais pas s'il te fait penser, mettons si on joue au jeu des comparaisons des gars que t'as affrontés, que tu sais des grands attaquants.
Je serais pas surpris qu'il ressemble à un Rantanen. Sans farce, là, le plus je le regarde jouer, le plus je le vois être confiant avec la rondelle, peut-être un petit peu plus physique, mais Rantanen a des statistiques comparables un petit peu au début de sa jeune carrière. Donc, je serais pas surpris qu'on voit Slafkovský un jour toucher aux 80 points. De là à dire 100 comme Rantanen, c'est beaucoup encore parce qu'il y a encore de grosses marches à franchir, mais je serais vraiment pas surpris qu'un jour on puisse les mettre les deux dans la même conversation.
Et ça dépend avec qui tu joues aussi. Tu sais, si tu joues avec Nathan McKinnon, ça aide à passer le cap des 100 points. Mais Slafkovský avec McKinnon. Puis je n'écarte pas que Suzuki puisse grimper. D'ailleurs, même Martin Saint-Louis l'a évoqué la semaine dernière qu'il serait bien surpris qu'il soit pas plus qu'un gars de plus qu'un point par match. Ça fait pas un gars de 100 points, de 82, mais de 82 à 100, là, tu sais, quand les gars sont dans cette zone-là, dans leurs grosses années de production, ça va vite, hein?
Je pense que éventuellement, je te dis pas cette année, bien évidemment, mais peut-être pas l'année prochaine, mais je pense que d'ici les trois prochaines années, on peut avoir un Suzuki qui touche à 100 points. Puis il y en a qui vont me dire, Antoine, t'es peut-être dans la lune, mais je pense pas parce que Slafkovský va être encore meilleur, Caulfield va être encore meilleur. Ils vont avoir ce dynamisme, cette chimie qui va encore s'installer davantage. Et c'est ça, les trios qui restent ensemble longtemps, c'est parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils savent se repérer facilement. Puis l'autre jour, j'écoutais Sam Reinhart parler, puis il disait justement que ça avait pris un certain temps avant de s'adapter au jeu en Floride, puis pour jouer avec Barkov notamment, parce que pendant une trentaine de matchs, ils se cherchaient, puis à un moment donné, ça a cliqué, et puis ça a commencé en fin d'année dernière, et boum, après ça, et depuis maintenant, ils ne regardent plus en arrière, puis il y a une ciseau de plus de 40 buts en ce moment.
Autre sujet, je fais un petit peu de coq à l'âne, si tu me permets, Antoine. T'as-tu vu un autre combat par Rampage? Ça a fait beaucoup de combats en peu de temps contre, comment il s'appelle, Ryan Reeves en fin de semaine des Leafs de Toronto. C'était pas, de tous les combats auxquels il a participé cette semaine, c'est sans doute le moins, comment dirais-je?
Spectaculaire.
Le moins spectaculaire, puis tant mieux pour sa santé à lui, là, quoi qu'il en donne aussi, il fait pas rien qu'en recevoir. Là.
Ben, c'est sûr, puis je trouve... Je respecte ça, un jeune qui va se faire sa place, qui va se faire remarquer, puis qui trouve un moyen différent de jouer différemment des autres, puis qui accepte son rôle, qui veut rester, qui veut s'accrocher, puis qui veut s'acheter du temps. Pour moi, c'est ça me parle. J'ai déjà été ce joueur-là. Je me suis acheté du temps, puis ça m'a aidé à me développer dans un joueur que je voulais devenir, être meilleur avec la rondelle. Puis ça se voit, ça peut se faire. Donc les joueurs qui arrivent avec cette attitude-là, pour moi, je respecte ça parce que il n'y a pas une seule façon de faire la Ligue nationale. Et lui est en train de le montrer différemment. C'est pas parfait. Est-ce que ça revient au hockey de l'ancien temps un petit peu? Mais il est en train de s'acheter du temps, comme je le dis. Peut-être qu'il l'utilisera ce temps-là pour se développer et devenir un joueur qui éventuellement signera peut-être un contrat 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe comment il va se développer, mais il se donne la chance en faisant des gestes de la sorte de se gagner du temps puis de pouvoir se construire une carrière à lui-même que seul lui est capable de faire.
C'est qui le champion poids lourd de la LNH en ce moment? Est-ce que c'est Tom Wilson encore?
Tom Wilson, ce qui arrive, c'est qu'il fait pas juste ça, il sait jouer au hockey. Donc, il peut se permettre de choisir quand il veut y aller vraiment. C'est sûr que Ryan Reeves fait encore partie de ces joueurs-là. Nick Delorier aussi. Je te dirais que Il y en a Pat Maroon aussi. Donc, il y en a quelques-uns. Puis on dirait que ça revient un petit peu. Les équipes aiment ça d'avoir un proche. Mais c'est sûr que c'est différent des années antérieures.
Est-ce que Mathieu Olivier figurait dans ton top 5 de la Ligue? Parce que c'est lui qui a eu le meilleur combat contre MP.
Ben, écoute, je ne tiens plus de top 5 depuis longtemps, Mario. oui, effectivement, il m'a vraiment surpris, Mathieu Olivier, sur ce combat-là. Et je te dirais, ben c'est un petit peu à ça. Des fois, quand tu analyses des équipes de l'extérieur, ben c'est important de regarder les alignements puis de connaître les joueurs, parce que des fois, tu peux te faire surprendre. Pour des jeunes qui voudraient rentrer dans la Ligue, des fois, Mathieu Olivier, peut-être qu'on le connaît pas, mais tu regardes ses statistiques, tu demandes à tes coéquipiers, il y a 2-3 coéquipiers qui vont te dire « touche pas à ce gars-là ». Et par exemple, une fois dans la Ligue américaine, ça m'est arrivé, on jouait à Toronto, jouait pour les Wolves de Chicago, puis on jouait contre les Marlies à Toronto, puis il y avait un Orr qui jouait, puis c'était Colton Orr. Puis j'avais déjà entendu parler de ce gars-là, mais je savais pas vraiment qui c'était. Fait que j'ai demandé au gars, il est tout tough, lui. Tu sais, tout naïvement, les gars m'ont dit, touche pas à ce gars. Je dis, OK, je vous fais confiance. Puis finalement, quelques jours plus tard, je m'étais rentré chez nous, j'avais regardé sur l'ordinateur, je dis, ouais, il y a une chose qui m'avait averti mes coéquipiers, finalement.
C'était des bons yards, finalement. Ils t'ont pas tendu un piège. Colton Orr, qui était dans la chambre de l'équipe new-yorkaise en fin de semaine de la LPHF pour leur faire ce qu'on appelle un discours de motivation, pour ne pas dire un pep talk. Alors, ben, c'est des bonnes anecdotes. C'est toujours bon, ça, les bonnes petites anecdotes de ta carrière, Antoine. Un gros merci d'avoir commencé la semaine avec nous. Je te dis à très bientôt.
Ben, sûrement. Et puis, à bientôt. Bye-bye.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Touché!
Pour les fidèles du sport.
De retour aux amateurs de sport, et plusieurs personnes ont trouvé les bons mots pour honorer la mémoire de Paul Hood en fin de semaine. Un de ceux-là, un de ses grands amis, Michel Baudry, mon ami également, qui disait « Un Paul Hood, il n'y en aura qu'un seul ». Et il a tellement raison. Michel est avec nous ce soir aux amateurs de sport. Bonsoir Michel.
Salut Mario, bonsoir tout le monde.
C'est vrai que Paul Hood, c'est un gars unique. Il en imitait un paquet de monde, mais lui, fondamentalement, c'est un gars unique, Michel, n'est-ce pas?
Écoute, tu sais, c'est un gars qui... C'est pas difficile, mais c'est très long à le décrire, tu sais, parce que c'est un gars qui était un vrai amoureux de la vie. Tu sais, c'est ça, les un mordeur, là, tu sais. Là, tu sais,
oui.
Quelqu'un qui mord dans la vie, là, c'était Paul Hood. Et Paul... autant, tout à coup, on pouvait parler de famille, on pouvait parler de d'astronomie, inclus d'en parler, là, parce que personne ne connaît ça. Là. Puis, mais tu sais, Paul, c'était dans tout. T'sais. Quand il se mettait à parler des Blackhawks de Chicago, il retournait en 1934, c'était... Mais il y avait une folie merveilleuse en dedans de lui. T'sais. Il voulait toujours s'amuser, il voulait toujours faire rire les autres. Il était... Il y a un mot que j'ai gardé dans l'article que j'ai écrit samedi, c'est le mot volcan. C'est que Paul, là, c'était jamais tranquille. T'sais, pis écoute, moi, je suis allé dans le sud avec où on était supposé se pogner le beigne, il ne fait rien faire. Là. Oublie ça. À 11h le soir, on était obligé de se coucher sur le dos, ces chaises longues, regarder les étoiles, puis là, il me disait, ben gars, ça, c'est celle-là, puis c'est ici, puis c'est ça. Il n'y avait pas de fin, Paul. C'est jamais.
C'est juste...
un être merveilleux.
Je fais juste m'imaginer ce que ça devait être de vous retrouver dans un même studio, moi qui ai eu tellement de plaisir avec toi et avec Paul, mais de vous retrouver ouais. Là au summum de votre carrière en train de faire une émission du matin ou toutes sortes d'autres émissions, vous devez avoir eu pas mal de plaisir, Michel.
Incroyable, je te dis, il y a des moments, pas juste à la radio, à la télé, mais Paul, c'était tellement une belle radio, mais j'ai les 9 premières années de ma carrière, je travaillais comme journaliste au Général. Après ça, je suis passé au sport. Et CKMF m'a engagé pour aller faire les sports dans l'émission de Paul Hood. T'sais. Mais tu sais, Paul aurait pu faire les sports lui-même dans son émission. Là. Écoute,
c'est ben oui.
Tellement de sport. Mais aussi, je lui servais de
faire savoir valoir.
De faire valoir, excusez, pas savoir faire, mais de faire valoir.
Oui.
Et là, on a eu un fun fou. Tu sais, je faisais une nouvelle sur les expos. Ben là, je disais que je parlais avec Claude Raymond. À la boxe, j'étais avec Thierry Raymond. Écoute, c'est le seul, je connais pas personne qui a imité Guy Lafleur comme Paul. imiter Régent Hall. Tu sais, le Régent Hall qu'on fait tous, là, oui, bonjour, là. C'est Paul qui a commencé à faire ça, tu sais. Et là, on a eu du fun. Puis après ça, on est devenu, on était comme des... Ben, tu sais, on dit ça, nous autres, mais on était des rivaux, tu sais. C'est comme si moi, j'animais une émission de sport à une autre station que 98.5. Mais tu sais, t'es mon ami pareil.
Ben
t'sais.
Oui, ben oui.
On s'appelle, puis on peut aller prendre une bière ensemble. C'est les stations qui sont rivales, tu sais, nous autres. Fait que Paul et moi, des fois, on s'appelait pendant nos émissions. Il était à CFGL, moi, j'étais à CJMS. Ou après ça,
t'es avant sérieux? Ça, c'était...
Mais on s'appelait, tu sais. Puis on se jasait, puis tu sais, nos femmes, nos épouses, nos enfants, nos deux fils se connaissaient. Plus que se connaissaient, se fréquentaient, tu sais, puis on était des chums, tu sais, deux gars différents, mais moi, je l'aimais tellement, Paul, écoute, puis des fois, on se retrouvait ensemble. Écoute, il est arrivé des coïncidences, des fois. Paul et moi, on s'est rencontrés par hasard à Sainte-Lucie, dans le sud.
Ah, ouais?
Tu sais, il y avait, des fois, c'était comique, tu sais, et, ben, toujours beaucoup de plaisir, puis, tu sais, moi, j'ai lié de ses folies, il riait des miennes, tu sais, puis...
C'était tout un imitateur, puis est-ce que il a joué un rôle dans le fait que toi, tu commences à faire des imitations? Vous avez commencé ça en même temps, Michel?
Ben non, il a commencé avant moi. Oui, il a joué un rôle, absolument, parce que lui, il m'a montré, sans le savoir, il m'a montré à me dégêner. Parce que moi, quand ils m'ont dit... Moi, j'ai commencé à travailler comme morning man à CKMF, mais j'étais là en remplacement. Je remplaçais parce que, bon, Alain Monpetit était disparu, puis il avait essayé des choses, ça marchait pas. Puis là, ils m'ont demandé d'être remplaçant en attendant. Mais moi, j'avais travaillé avec Paul, puis je l'avais vu aller dans sa folie. Parce que Paul, tu sais, il s'amusait, mais pas toujours. Tu sais, des fois, il devenait complètement sérieux. Ben, vous avez tous vu, vous avez tous connu.
Oui, oui, oui.
Mais moi, il m'a appris ça. Tu te laisses aller. Parce que moi, mon boss, à un moment donné, il venait me voir. Puis il m'a dit, je te donne tant si tu déconnes. Parce que moi, je déconnais dans les corridors, tu sais. Moi, j'imitais mon boss, j'imitais un autre employé, j'imitais des personnages, tu sais, mais je faisais jamais ça en ondes. Puis là, à un moment donné, il y a un boss qui m'a dit, si tu le fais en ondes, parce que je cherchais un morning man, là, on va t'augmenter pas mal ton salaire, tu sais. Puis moi, ma blonde est enceinte.
Tu sais, ouais, c'est une bonne idée, ça.
Ça tombe bien, ça fait dans mon budget. Et, c'est Paul qui m'a donné cette comment dirais-je, ce truc-là, cette façon aussi d'amener des personnages. Tu sais, parce qu'avant, j'avais travaillé avec Jacques Trou, mais Jacques Trou n'imitait pas, tu sais, mais Paul, il m'a montré à amener les personnages à la radio, puis à m'amuser avec, puis tout ça.
Avez-vous déjà fait des imitations dans un même numéro ensemble, Michel?
On a fait 2 ans, il nous est même arrivé, je me souviens une fois, de travailler sur scène, je pense qu'au tournoi de golf de Claude Raymond. Mais là, pendant 2 ans, on a fait le Festival de l'humour à CKC ensemble.
Oh mon doux Seigneur!
C'est moi qui le produisais. Puis là, nous autres, on avait pris des vieux du festival qui étaient Louis-Paul Allard, Pierre Lecard et Roger Joubert. Puis moi, j'avais ajouté Paul Houde et Michel Baudry. Ça faisait comme... deux époques qui se heurtaient.
Oui.
Mais ça a eu du succès. Ça a marché. On n'a pas pu continuer parce que ça coûtait trop cher. Tu sais, c'était, dans l'ancienne radio, ça marchait, mais dans la nouvelle, ça coûtait trop cher. Mais du plaisir, là, je te le dis, là, à pleurer. Et aussi à rire bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission.
L'émission TVA, oui, je me rappelle.
Du fun, là, du plaisir, là, tu sais. Puis capable de, on enregistrait le jeudi. On était clair de se lâcher le soir. C'est tellement qu'on avait du fun. C'était mon lignement de tous les deux. Le lendemain, il fallait être à une station de radio. Mais oui, j'ai eu du fun avec Paul. J'ai eu du fun. Écoute, c'est indescriptible. Puis c'est un style de bonhomme que j'ai toujours adoré parce que c'est une bombe. C'est un volcan. Ça sort de partout.
Un rien ne l'allumait, là.
Ben oui, mais oui. Il aimait tout. Tu sais, tu parlais de politique, ça partait. Et lui, évidemment, l'astronomie, mais aussi, tu sais, on pouvait parler de géographie, de voyage, les kids, les enfants, tu sais, il y en a deux, j'en ai un. Nos gars étaient chum ensemble. Moi, à l'époque, j'étais avec Carole, la mère de mon fils, et Carole et Francine s'entendaient merveilleusement ensemble.
Deux agentes.
Avec ta belle-sœur Lucie.
Deux agentes en plus. Carole était ton agente et Francine, que malheureusement j'ai pas eu l'occasion de connaître, qui était l'agente de Paul aussi, fait qu'elle négociait. Un autre parallèle.
On les appelait nos pitbulls.
C'est eux qu'elle au front pour leur homme.
C'est ça, nous autres, on faisait du mot, on riait, on déconnait, mais eux autres, ils allaient au front.
Hey, bonne celle-là. Hey, c'est arrivé vite. Je sais pas si tu étais au courant ou tu étais dans le secret du fait que Paul, sa santé là, n'allait pas bien depuis un certain temps, mais moi, en tout cas, quand j'ai appris ça en fin de journée samedi, j'ai vraiment été surpris. Là. Et toi, comment t'as accueilli
Mario,
la nouvelle?
Je vais vous dire la vérité, j'étais pas ici, j'étais au Costa Rica et je venais d'apprendre la mort d'un autre de mes chums qui est réellement sûr que vous connaissez bien. Et j'étais déjà secoué, même si, bon, Réal à 83, puis Réal, je savais qu'il y avait des petits problèmes de santé, mais Paul, je ne savais pas. La dernière fois que j'y ai parlé, c'était au mois de décembre. Et je savais, là, tu sais, qu'il voulait publier sa randonnée en VR, tu sais, ça me faisait rire, parce que Paul était un très mauvais conducteur. En tout cas, c'est Francine que j'ai lu en premier sur Facebook qui dit aux gens respecter notre intimité suite au décès de Paul. T'es pas capable de le croire. Ça se peut pas que Paul soit mort. T'sais. C'est un peu. Puis tu sais, on est comme. Je dirais pas qu'on est un groupe, là, qu'on est une. Mais tu sais, on est tous. Il y a des chums là-dedans, tu sais, Michel Côté, Réal, Paul. Pierre Infray, Bijoux, tu sais. Qu'est-ce qui se passe?
Yvon Penneau, il n'y a pas longtemps aussi.
Yvon. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai écrit arrêtez de mourir. J'ai peur, moi. J'ai 67 ans. Tu sais, c'est tout moins le prochain.
Jean-Paul Senior, qui lui aussi avait un âge vénérable, mais quand même, oui, on a perdu beaucoup de gros morceaux là, dans les derniers mois.
Voyons donc.
Ça t'affecte, Michel? Ouais, ça te fait-tu reconsidérer ma foi?
Samedi matin, là, je venais d'arriver là, du Costa Rica, samedi après-midi. Là, je te le dis, je suis resté jamais devant mon ordinateur au moins 2 heures. Puis là, le téléphone sonne, c'est Denis Poisson, le directeur des sports du Journal de Montréal, qui m'appelle. Il dit, Michel, pas là, c'est ton chum. Je dis, ben oui. Il dit, peux-tu nous écrire? Écoute bien, il voulait que j'écrive. Oui, je l'ai écrit. Mais je n'étais pas hâte de décoller. Tu sais, je me disais, ça se peut pas. Je pensais à Paul Frédéric, à Carl.
Tu revoyais le film. Tu sais, quand tu repenses à quelqu'un à cause de ça, tu vois le film de tout ce que tu as vécu avec.
Puis là, j'ai lu Francine, qui dit, laissez-nous dans notre intimité. Mais moi, c'est comme mon. Je dirais pas mon frère, mais c'est. Je n'ai pas appelé Francine, là, j'attends, je vais laisser tomber la poussière un peu. Je voulais appeler Pierre. Là, je me suis dit, Pierre, il doit être inondé, ça doit être épouvantable. Je n'étais plus capable de bouger. Que ce que j'ai écrit, je vous le dis, là, c'est un jet. C'est parti, je me suis vidé le cœur d'un coup. T'sais. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré parce que je pensais à Paul. J'ai tellement eu de fun avec, j'ai tellement... Tu sais, on est parti, tu sais, il y a 2 ans plus vieux que moi, mais tu vois, j'étais même pas sûr, tu sais, je pensais qu'il avait le même âge que moi, Paul. Je savais pas qu'il avait 2 ans de plus que moi. Tu sais, puis Paul, tu sais, écoute, ben, je me rappelle, une fois, on est allé faire un demi-marathon ensemble. On était 2 fumeurs. On a failli mourir ça, en courant ça, tu sais. Mais Paul, il était tellement acharné, tu sais. Oui, ça s'appelait, ça va les filles, je me souviens pas, l'Astragal. C'est lui qui m'embarquait là-dedans. Moi, j'étais après que. Moi, je vais au hockey, OK, mais fumeur, je vais au hockey, c'est pas pire, parce que tu fais des chiffres de 35-40 secondes.
Ouais,
tu sais.
Ouais.
Mais courir 2h30, le chef, là, tu craches le.
Ouais. C'est pas drôle, mais c'est drôle.
Lâche pas, Michel. Ben, moi, je veux bien pas lâcher, mais j'étais après crevé. Tu sais.
L'avez-vous fini?
Ben oui, on a fini. On a eu chacun une plaque. T'es quasiment plus capable de la transporter à plaque tellement que t'as brûlé, tu sais. Mais on a bien, on est allé souper après. On avait plus de l'air des marathoniens quand on a
l'air. Hey, c'était-tu toi son coach des goalers avec les boys?
Et ça, c'était une autre affaire. Paul, là, il avait pas goalé. Il savait pas ça. Il voulait jouer dans le film. Mais il est tellement acharné. Là, il s'est trouvé un stock de goalers. Il est allé dans, je pense, c'était... Je me souviens plus que l'aréna, là, une petite aréna dans le nord. Il allait patiner tout seul. Et à un moment donné, il m'appelle, il dit, je suis capable de gauler. Ben oui, c'est sûr. Je pense qu'il n'avait pas encore su un poc de sa vie. Puis là, Hugo, là, il était rendu dans le film, c'est Kim Saint-Pierre qui le doublait. Ah, mais j'ai dit, t'as du gars, tu sais, puis hey, il dit, le puck, là, il dit, ça vient vite. Ben, tu sais, quand t'as joué au hockey, le puck, il vient moins vite, mais quand t'as jamais joué, j'imagine mon Paul dans le film.
Ben oui, toi.
Il dit, le masque. il dit, on se fait attaquer, puis il filme, tu sais, puis il dit, le masque, il a bougé, puis j'avais plus les yeux devant les trous. Il dit, je voyais plus rien, je faisais semblant de suivre le puck à gauche, il était à droite. Il a du fun, tu sais.
Il rirait lui aussi, hein, d'entendre conter l'histoire. Michel, en terminant, il trouverait ça drôle, hein.
Ah oui, il trouverait ça drôle. Écoute, je garde des souvenirs impérissables, puis c'est un grand de la radio, là. Tu sais, toi qui es un grand de la radio, là, tu sais, c'est un des vrais, ceux-là, là. Tu sais, c'est dans les grands, là. Tu sais, si jamais ils font un Hall of Fame, là, il est en avant.
Ouais, Michel, merci beaucoup. Merci de ton témoignage. Puis je suis content que même si c'est triste, évidemment, de perdre Paul, qu'on ait ri parce que, tu sais, on peut pas passer un moment avec Paul sans rire un peu. Alors, je trouve que ça honore tellement bien sa mémoire. Merci, mon cher Michel. Merci, mon ami. Bonne soirée.
Hey, ça me fait plaisir d'avoir collaboré, mais ça me fait de la peine d'avoir perdu
mon
vieux Paul.
Ben oui, c'est sûr.
Ben, à tous ceux qui l'ont aimé, je vous envoie mes condoléances. On a tous beaucoup de peine.
Merci, Michel.
Ça fait plaisir.
Michel Baudry qui était avec nous pour honorer la mémoire de son ami Paul Wood.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.